chargé de l'Afrique. Il se trouve ici même à Washington. Teddy Mazina, je commence par vous. Pourquoi, d'après vous, le régime militaire au Niger est-il réticent pour le moment à accepter les offres de négociation provenant de la CEDEAO et des États-Unis?
C'est dans l'essence même de son existence. S'il y a coup d'État, c'est qu'ils n'ont pas prévu de quitter le pouvoir directement. Donc c'est une situation de fait qui n'est pas nouvelle en Afrique de l'Ouest et qui fait que finalement on a un effet de domino où un nouveau genre de coup d'État militaire se succèdent dans la plupart des pays, mais qui sont déjà grévés de plusieurs problèmes, que ce soit des problèmes d'insatisfaction des populations, des nouvelles générations, que ce soit des problèmes de sentiment d'une présence étrangère ou néocoloniale française qui est aujourd'hui entretenue par les réseaux sociaux et par des nouvelles formes de circulation d'informations, de populisme, que ce soit l'idée qu'aujourd'hui la Russie peut changer les choses en étant un nouvel acteur dans la région et en venant sauver les gens, soit de la pauvreté, soit d'une forme de prolifération de réseaux djihadistes qui quand même ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Et c'est aussi un manque d'espérance. On a une superposition des couches de problèmes successifs où la nouvelle jeunesse qui aujourd'hui a accès à l'information est informée. L'émergence de nouvelles voix sur les réseaux sociaux qui sont pour la plupart des fois populistes, qui sont parfois en connivence avec certains réseaux finalement russes, et on a une forme de transplantation d'une guerre occidentale, donc la guerre que se font les Occidentaux et les Russes aujourd'hui en Ukraine.
Nous allons y revenir, Teddy Mazina, mais comment expliquez-vous le fait que malgré les restrictions des libertés, bon nombre de Nigériens continuent d'afficher publiquement leur soutien au coup d'État en tenant des manifestations en faveur de la junte, mais aussi de la Russie, vous venez de le dire, sans oublier le rejet de la France et d'ailleurs du déjà vu dans d'autres pays africains?
C'est justement ce que je disais, c'est des attentes inassouvies depuis des années. Les populations, les questions d'éducation, les questions de santé, les questions de développement, les questions de pouvoir politique ou d'espérance politique où les gens peuvent s'identifier à un avenir. Il n'y en a pas. Donc les populations peuvent répondre à n'importe quel coup de force tant qu'il est édulcoré de discours et de velléités combattantes contre un dominant ou un néocolonialisme français qui lui non plus n'a pas quitté la région depuis longtemps.
Victoria Nuland, la numéro 2 de la diplomatie américaine, s'est rendue à Niamey lundi pour rencontrer les auteurs du putsch, réunion à laquelle n'a pas pris part le général Abdourahman Tchiani, le nouvel homme fort du Niger. Elle n'a pas non plus rencontré le président Bazoum. Les entretiens ont été extrêmement francs et par moments assez difficiles, a reconnu Madame Nuland. Herman Cohen, est-il encore possible pour les États-Unis, partenaire clé du Niger dans la lutte anti-djihadiste dans cette région du Sahel, de jouer un rôle majeur en vue de résoudre la crise?
Je ne crois pas. Ce n'est pas le rôle des États-Unis de jouer un rôle là-bas. C'est surtout la CEDEAO qui gère ces négociations. Et il faut donner la priorité aux Africains eux-mêmes de faire une médiation entre Tchiani et les politiciens civils.
La nomination d'Ali Mahaman Lamine Zen comme Premier ministre civil, qui va donc diriger le gouvernement nouvellement formé, est-elle un signe positif pour un éventuel retour à l'ordre constitutionnel ou s'agit-il d'une autre tactique de la junte nigérienne, Herman Cohen?
Je crois que c'est seulement une tactique. Le général Tchiani voudrait rester au pouvoir. Nous avons des renseignements qu'il avait des informations que le président Bazoum avait l'intention de le remplacer, de choisir quelqu'un d'autre pour être chef de la garde présidentielle. Et il ne voulait pas partir. et donc il a fait la putsch. C'est une très mauvaise raison de faire un putsch, mais maintenant il est coincé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas démissionner parce qu'il sera envoyé en prison. Donc c'est un peu... ce sera très difficile maintenant, mais moi j'ai confiance dans les Africains d'organiser une solution.
Justement, le chef de l'État nigérian Bola Tinubu, président en exercice de la CDAO, affirme qu'aucune option n'est écartée. Teddy Mazina, quels pourraient être les scénarios possibles si la situation ne se résout pas pacifiquement d'après vous?
Alors, je serais devin si je pouvais dire ce qui va se passer, mais je pense qu'on est sur du homegrown solutions qui doit être mis en place. Les schémas, les nouveaux paradigmes qui se posent à nous, c'est est-ce que la logique démocratique avec des constitutions démocratiques est encore possible? Est-ce que les putschs vont être normalisés et être une pièce de rechange? Est-ce que les valeurs démocratiques comme la liberté d'expression, la liberté de culte et toutes les autres valeurs vont être respectées dans ces nouveaux cadres de putsch? Comment est-ce que les pays de la région donc, vont puiser dans leur façon de dialogue, dans la sagesse africaine elle-même pour pouvoir s'asseoir au lieu que des Africains, encore une fois, utilisent des armes occidentales pour s'entretuer? Comment est-ce qu'on répond aux attentes d'une population qui, finalement, malgré l'absence de projet politique, soutient des putschistes? On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina et ailleurs. Donc, c'est ces questions qui sont posées. C'est comment est-ce que l'Afrique va puiser dans son savoir et dans sa sagesse pour aller chercher des nouvelles formes de solutions et nouvelles lectures en préservant évidemment la liberté civile, donc tous les droits qu'ont pu offrir les rêves démocratiques et les espérances des printemps qu'on a vu émerger un peu partout.
Paul Oula est en ligne avec nous maintenant. Paul Oula, si je peux venir à cette déclaration faite aujourd'hui même par le président de la CDAO, le chef de l'État nigérian. Alors, il dit, la négociation avec le régime militaire au Niger doit être le socle de notre approche, a déclaré donc à Abuja le président du Nigeria, Bola Tinubu, à l'ouverture de ce nouveau sommet de la CDAO sur le Niger. Il est crucial que nous donnions la priorité aux négociations diplomatique et au dialogue comme socle de notre approche, a-t-il dit. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration de Bola Tinubu, Paul Oula?
Oui, je pense que c'est déjà une très bonne chose, parce que quand vous essayez de voir au début, le président nigérien a été très très intransigeant à l'entame de dès sa prise de pouvoir au niveau du Niger et lorsqu'il avait été nommé par ses pairs à présider la destinée de la CDAO, il avait dit qu'il allait être intransigeant dans le domaine du coup d'État. Mais aujourd'hui, après avoir dit ça, vous avez vu qu'il y a eu le coup d'État au Niger et il a été très intransigeant. Partant de ce constat, la position était très très calme entre les militaires du Niger et la CDAO. Maintenant, s'il essaye de redorer un peu le blason en disant qu'il allait mettre en avance les voies diplomatiques, je pense que c'est une très très bonne chose si ça ne tombe pas dans la sourde oreille des militaires nigériens. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, la CDAO n'a pas bonne presse en Afrique de l'Ouest. Et vous n'êtes pas sans savoir que les décisions qui ont été prises par la CDAO contre les pays qui ont perpétré le coup d'État tels que le Mali, le Niger, la Guinée, la CDAO a été très dure envers eux. Donc je pense qu'avec cette nouvelle déclaration, cette nouvelle posture de M. Tinubu, je pense que peut-être les lignes vont bouger dans les jours à venir.
Alors, dans un entretien accordé à la BBC mardi dernier, le patron de la diplomatie américaine a fait part de son avis. Pour Anthony Blinken, le coup d'État contre le président Bazoum n'a pas été fomenté par le Kremlin ou par les paramilitaires de Wagner, mais il avertit que le groupe russe tentera tout de même d'en tirer profit. Herman Cohen a vu les liens militaires de longue date entre Washington et Niamey. Les États-Unis pourront-ils empêcher Moscou de prendre pied au Niger?
Les Américains ne peuvent pas empêcher par exemple, le groupe Wagner, les mercenaires russes, ont envoyé des soldats. Mais je crois que Moscou est très prudent dans cette affaire. Moscou ne peut pas être vu comme antidémocratique, parce que le président Bazoum a été élu démocratiquement. C'était une très bonne élection, très transparente. Et Moscou ne peut pas être vu comme ils sont contre la démocratie. Donc, je ne vois pas que le groupe Wagner va envoyer des mercenaires pour aider les putschistes. Et une autre chose que je dois signaler, que le Nigeria, le voisin du Niger, fournit 75% de l'électricité qui est utilisée par les Nigériens. Et déjà, le Nigeria a coupé cette électricité. Donc, ce sera très dur pour les citoyens ordinaires du Niger de faire fonctionner la climatisation et tout ce qu'il y a pour faire la cuisine. Donc, les putschistes sont sous grande pression maintenant de laisser l'ancien président Bazoum de reprendre ses fonctions comme président.
Oui. Et maintenant, extrait de commentaires tiré de la page Facebook de VOA Afrique. Ala Tejim de Douala au Cameroun, le peuple nigérien est souverain et lui seul peut décider qui doit présider sa destinée. Et archiduc Théodore de Djamena au Tchad, la voie diplomatique est la meilleure, sinon toute intervention militaire est une attaque d'un territoire indépendant. Merci bien pour vos commentaires. N'allez nulle part ailleurs, à la suite de Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Merci beaucoup.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
De retour avec vous dans Washington Forum en ce jeudi 10 août 2023. Gros plan sur le Niger, ébranlé par le coup d'État du 26 juillet. La CDAO, réunie en sommet à Abuja aujourd'hui, a déjà indiqué vouloir continuer à déployer toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel. Un ultimatum donné à la junte nigérienne n'a pas été suivi d'effet à son expiration dimanche dernier, mais le bloc ouest-africain, jugé à la solde de la France par les militaires de Niamey, les a menacés d'une intervention armée en cas d'échec de la diplomatie afin de rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, qui est toujours assigné à résidence avec sa famille. Et nous retrouvons nos invités, justement, Paul Oula, analyste sécuritaire et politique. Il nous rejoint de Bamako au Mali, en direct de Bruxelles en Belgique. Teddy Mazina, activiste des droits humains et membre du réseau panafricain des mouvements citoyens Afriki Network, et Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Il se trouve ici même à Washington DC. Des dignitaires et ministres du régime déchus ont été arrêtés. Mohamed Bazoum lui-même se qualifie d'otage des putschistes. Ses proches affirment qu'il est en bonne santé. En revanche, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, est préoccupé par, dit-il aujourd'hui même, les déplorables conditions dans lesquelles vivraient le président Bazoum et sa famille. Paul Oula, vous êtes au téléphone. Faut-il craindre pour le sort du chef de l'État renversé? Est-il temps pour les militaires de le libérer avec sa famille, bien entendu?
Oui, effectivement. Moi, je pense très sincèrement que le fait que l'intervention militaire qui avait été à l'époque prônée par la FIDAO n'a pas eu lieu, donc je pense maintenant qu'avec les négociations, Bazoum pourrait être en liberté. Mais ce qui était très inquiétant, au cas où l'intervention internationale avait eu lieu, il fallait craindre pour la vie de M. Bazoum, parce que vous savez qu'il est plus ou moins en otage, il est détenu par les militaires. Si on s'hasardait à faire une intervention militaire pour obtenir sa libération, moi, je pensais que ça allait coûter à sa vie et ainsi que les membres de sa famille. Aujourd'hui, le fait que la FEDEAO a décidé de changer de posture et de prôner la voie diplomatique, politique et le dialogue, je pense qu'à partir de ça, on peut envisager la libération de M. Bazoum. Parce que si vous essayez de voir aujourd'hui les différentes sanctions qui ont été infligées contre non seulement les militaires qui sont au pouvoir, mais aussi contre la population civile. Vous n'êtes pas sans savoir que les 70% de l'électricité nigériane, sont produites par le Nigeria. Et aujourd'hui, le Nigeria a décidé de couper cette fourniture d'électricité. Et à partir de là, il faut comprendre aussi qu'il y a des sanctions économiques et financières. Et je pense que maintenant, le fait que la FEDEAO a essayé de redorer un peu le blason en prônant ce qu'on appelle le dialogue, je pense qu'à partir de ce instant, on peut penser que les lignes vont commencer à bouger. Mais ce qu'il faudra craindre, c'est le leadership de la FEDEAO. Il faut que la FEDEAO parvienne à choisir une personne qui est crédible, une personne qui n'est pas plus ou moins impliqué dans une personne que la gente ne fait pas de soupçons sur cette personne. Alors, je pense qu'à partir de cet instant, il faut choisir une personne crédible qui serait en mesure de mettre la machine du dialogue entre la FEDEAO et la jeune qui est au pouvoir. Oui, et partant de là, moi, je pense qu'il pourrait vraiment essayer de voir si toutefois on pouvait choisir, par exemple, un pays comme la Guinée ou le Libéria. Parce que vous savez aujourd'hui que les pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, Bissau, un peu le Togo, le Bénin, ont du mal à pouvoir convaincre l'opinion sahélienne sur ce que la FEDEAO doit faire en matière de bonne gouvernance pour essayer de débloquer cette situation, décaler cette situation.
Voilà. Nous avons compris votre point. Oui, absolument. Alors, Teddy Mazina, si le Mali et le Burkina Faso considèrent une éventuelle intervention de la CDAO au Niger comme une déclaration de guerre contre eux, comment cela pourrait-il remodeler la dynamique politique et sécuritaire de toute la région ouest-africaine, brièvement, si vous pouvez?
Ouais, je voudrais revenir sur les propos de l'orateur précédent. Oui. Je pense qu'il y a une urgence, il faut libérer le président Bazoum. On n'enferme pas dans une cave un président élu. C'est inconcevable qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas la démocratie. Ici, on n'est même pas devant un cas de trahison nationale ou etc. Il s'agit de changer le pouvoir parce que c'est plus ou moins à la mode dans la région, donc c'est inconcevable. C'est quelqu'un qui est enfermé avec sa famille. Donc il faudrait garder un minimum de valeurs africaines et d'humanité. S'il est démis de ses fonctions, eh bien c'est très bien que les putschistes lui donnent des conditions normales. Après, le fait que le Mali et le Burkina interviennent, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que j'ai l'impression, pour être rapide, que le Mali et le Burkina étant aujourd'hui dans le giron de la Russie, on assiste à une chaise musicale entre des pays occidentaux, encore une fois sur le continent, et la musique, c'est les Africains qui la jouent. Donc on va remplacer peut-être les Français par les Chinois ou par les Russes ou par les Américains, on ne sait plus qui, mais on ne tient pas compte des urgences qui font que les gens descendent dans la rue, que les gens protestent, ne comprennent même plus pourquoi ils vont voter, puisque non seulement les pouvoirs élus ne répondent pas, n'apportent pas de projet politique qui puisse apporter de l'espérance comme on l'a vu dans certains pays, on a aussi la présence de djihadisme dans la région qui quand même a tué, j'ai regardé les chiffres, 40 000 personnes sur les 10 dernières années et 10 000 dans l'année qui vient de passer. On est devant des urgences qui font que les gens descendent, mais est-ce qu'on a encore des repères ? En plus des populismes sur les réseaux sociaux ou du néo-panafricanisme à émerger, où les gens pensent qu'en faisant des putsch, on va trouver des solutions, alors qu'on n'a aucun projet politique.
Mmh. Herman Cohen, nous le disions, les États-Unis sont présents dans cette partie de l'Afrique. Ce coup d'État vient-il fragiliser le combat contre le terrorisme dans la région sahélienne, où les groupes armés connaissent un regain d'activité ?
Bien sûr, ça va fragiliser la lutte contre le terrorisme. Et il faut rétablir la démocratie au Niger. La démocratie, c'est la meilleure méthode de faire face au terrorisme. Je vais proposer une solution. Libérer le président Bazoum et organiser par la CDAO. La CDAO doit envoyer une équipe au Niger pour organiser une élection dans 3 mois. Et après cette élection, le président Bazoum pourrait être candidat, mais pas les militaires. Il ne faut pas que les militaires soient candidats dans les élections. Une élection dans 3 mois, Bazoum est candidat, mais il y aura d'autres candidats. Et je crois que par cette méthode, le Niger peut revenir à la démocratie, qui est la meilleure méthode pour lutter contre le terrorisme, à mon avis.
Paul Oula, comment les actions de Wagner en Afrique, notamment au Mali où vous êtes et en République centrafricaine, peuvent-elles influencer la dynamique actuelle au Niger ? Rapidement, s'il vous plaît.
Ok. Je pense que la question de Wagner en Afrique est très, très compliquée, parce que quand vous devez le voir, les États qui sont en train de lutter contre le terrorisme sont en train de dire qu'ils ont une relation d'État à État avec la Russie et que les groupes ou les milices russes ne seraient pas au Sahel et dans les pays dont vous venez de faire allusion. Mais je pense très sincèrement que la lutte contre le terrorisme ne se résume pas seulement sur le volet militaire. Alors, il faut essayer de changer aussi de dynamique et de paradigme. Il faut prendre en compte les aspects développement, les aspects sociaux aussi. Oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas du tout dire qu'on a une collaboration étroite avec un tel pays ou une telle entreprise et qu'on peut avoir des résultats escomptés sur les théâtres d'opération, c'est-à-dire sur le plan opérationnel. Moi, je pense qu'il faut réellement partir sur la base d'une approche holistique en essayant de combiner l'action militaire avec les autres secteurs de développement. Parce qu'aujourd'hui, l'action militaire est en train de montrer ses limites, avec la présence de toutes ses forces au Mali et au Burkina Faso. L'insécurité jusqu'à présent est en train de monter au crescendo. Voilà, même hier.
Le temps file, c'est un sujet que nous allons suivre, bien évidemment. Merci bien. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Herman Cohen, Teddy Mazina et Paul Oula. Nous disons merci également à toutes nos radios et télépartenaires. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous avec Washington Forum dès jeudi prochain. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Take care. Merci.